matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Il est 8h sur Europe 1.
On a profité pleinement de la vie, la liberté. J'ai encore les pieds pleins de sable. Le programme là, c'est Paris, c'est le métro, c'est la folie urbaine. C'est un peu flippant quand même.
Une dernière journée, les pieds dans le sable avant de rentrer à la maison. De nombreux citadins profitent de la tolérance du gouvernement. Les retours de vacances sont autorisés jusqu'à demain soir.
Et dès lundi, chacun devra rester chez soi. Fini les déplacements entre régions, fini les achats non essentiels également. Les commerçants sont furieux, mais les médecins appellent au respect de ce deuxième confinement.
À Nice, les habitants se recueillent devant la basilique Notre-Dame. Frappés par le terrorisme jeudi matin, 3 personnes ont été tuées. L'auteur de l'attaque est toujours à l'hôpital.
Et puis la Turquie et la Grèce se proposent une aide mutuelle. Un séisme a touché les deux pays hier, faisant au moins 26 victimes.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le chef de l'État l'avait annoncé mercredi soir. En ce début de reconfinement, une tolérance va donc s'appliquer jusqu'à demain.
Une sorte de sas pour permettre aux familles de s'organiser, de rentrer de vacances pour ceux qui étaient en congé, loin de chez eux lors de l'annonce. Cette tolérance, ça veut dire pour certains un dernier bol d'air avant de rentrer en ville et de s'enfermer dans des appartements comme au printemps. Reportage à Pornic en Loire-Atlantique de notre correspondant Charles Guyard.
La bouffée d'air avant de s'enfermer, ça fait du bien quand même.
Ils sont encore quelques-uns à profiter des tout derniers instants au bord de la mer, comme ici à Pornic, où Max et Gwenola se baladent main dans la main à quelques heures de devoir repartir, et ce, après avoir écourté leurs vacances.
Parce que l'ambiance était un peu glauque, hein. Quand tout se ferme, il n'y a plus une terrasse, il n'y a plus un restaurant, ça fait triste.
Un sacré contraste avec jeudi soir où, puisqu'il n'y avait pas de couvre-feu ici, restaurants et bars ont pu faire le plein pour l'ultime soirée, comme l'a constaté Hélène.
Ah, c'était la folie. On a eu du mal à trouver une place, ça avait un côté peut-être dernière fête.
Dernier moment d'euphorie et même de liberté aussi pour Karine qui s'apprête à rentrer à Paris, la boule au ventre, après une petite escapade au bord de l'océan.
On a profité pleinement de la vie, la liberté, le bonheur. J'ai encore les pieds pleins d'eau et pleins de sable. Le programme là, c'est Paris, c'est le métro, c'est la folie urbaine, le fait d'avoir des dérogations pour tout. Ouais, c'est un peu flippant quand même.
La carte orange après la carte postale, voilà donc ce qui attend Karine dans la capitale dès lundi. Mais cette Parisienne n'en reste pas moins optimiste.
On est vivant. Il y a un virus qui nous emmerde tous, mais on est vivant.
Pornic, Charles Guyard, Europe.
Il y a les Français qui vont rentrer chez eux d'ici demain. Et puis tous ceux, ils sont nombreux, qui ont fait leur valise en vitesse pour fuir les grandes villes et notamment Paris et s'éviter un confinement trop difficile. Les informations de Carole Ferry.
Pas de doute, certains quittent bien Paris pour se confiner en région. Dès jeudi, la SNCF a enregistré une très forte accélération des ventes de billets au départ de la capitale. 50 000 billets de TGV ont été vendus pour des départs avant le 1er novembre. Ça représente une hausse de 75% des ventes par rapport au jour précédent. Alors on pourrait se dire qu'ils sont partis prendre un dernier bol d'air avant lundi, sauf qu'il y a une stabilité des ventes dans le sens des retours. Pour ceux qui rentrent effectivement de vacances de la Toussaint, la SNCF prévoit la circulation de tous les trains. Des trains globalement aussi remplis qu'un week-end normal, à 70% en moyenne. À noter que sans surprise, il y a eu de très nombreuses annulations pour les voyages au-delà de dimanche. Juste après l'annonce du confinement, la SNCF a enregistré 110 000 échanges et annulations de billets de train. En 24 heures.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1.
Confiné en ville ou à la campagne, l'objectif en tout cas est de rester à la maison pour casser les chaînes de contamination.
Car aujourd'hui, l'épidémie continue de progresser. Près de 50 000 nouveaux cas dans les dernières 24 heures. Un test PCR sur 5 revient positif. Comme au printemps, la consigne, c'est donc de limiter toutes les interactions sociales, d'arrêter ce qui n'est pas essentiel.
Et c'est ainsi que certains commerces ont reçu l'ordre de baisser le rideau, les cafés, les restaurants, les magasins de vêtements ou encore les librairies.
Impossible d'acheter un livre dans sa librairie de quartier, mais c'était encore possible en grande surface ou à la FNAC. Hier, de quoi provoquer la colère des libraires, le sujet est remonté jusqu'à Bercy et ils ont obtenu gain de cause, Emmanuel Dutheil.
La crise sanitaire est telle qu'il n'est pas question d'ouvrir les magasins non essentiels. Le message du ministère de l'économie est très clair et les décisions donc radicales. Pas question d'ouvrir les librairies. Et donc à ce titre, la FNAC et la grande distribution doivent fermer leur rayon culture. C'est une question d'équité, estime soulagé sur Europe 1 le PDG du groupe Le Furet du Nord de Citre. Un point sanitaire sera fait d'ici 15 jours pour voir si à ce moment-là il est possible de faire évoluer la situation. La FNAC en revanche est loin d'avoir perdu totalement son bras de fer. tous ses autres rayons vont rester ouverts, ce qui n'était pas le cas lors du précédent confinement. Et ce n'est pas le seul acteur à le faire. Boulanger a aussi décidé de garder ses magasins ouverts. Comme c'est autorisé de vendre ou de réparer des ordinateurs, des téléphones, bref, tout ce qui sert pour le télétravail, il rentre dans les clous. Et surtout, il ne laisse pas le champ libre à Amazon qui, lui, va continuer de tout vendre et notamment des livres. Un moindre mal, estime-t-on, à la FNAC.
Emmanuel Duteil, au-delà du livre, ce sont tous les petits commerçants qui aujourd'hui sont furieux. Certains ont décidé de rester ouverts. Les magasins de jouets ont déposé un référé devant le Conseil d'État. À Perpignan, à Montauban, à Chalon-sur-Saône, à Migennes dans l'Yonne, les maires ont pris des arrêtés pour les soutenir et leur permettre de maintenir leur activité.
Et cette fronde qui commence donc à grandir en France, cette menace sur le petit commerce, on va en parler juste après ce journal avec la ministre déléguée à l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher. Elle est notre invitée dans 8 minutes.
Il y a la crise économique et la dette qui augmente. Elle atteindra près de 120% du PIB cette année, selon le ministre de l'Économie qui s'exprime dans Le Parisien. Mais il y a aussi, évidemment, l'urgence sanitaire et les premières images de ce reconfinement ne plaisent pas du tout à Bruno Mégarban, chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris.
À ce jour, il est prévu, dans une dizaine de jours, une saturation totale des lits de réanimation par la Covid-19, et donc de très grandes difficultés en vue pour la prise en charge des autres patients. Il faudrait bien sûr très rapidement casser le rythme de circulation du virus, et ceci dépend de chacun d'entre nous. Certes, il y a les décisions sanitaires, gouvernementales, mais il y a aussi ensuite leur application à l'échelle de la vie quotidienne par chacun d'entre nous. Il faut absolument se tenir aux décisions prises et n'essayer d'aucune façon de contourner les fermetures de magasins demandées, l'arrêt des rassemblements et la limitation des déplacements, source de la poursuite de la diffusion du virus dans la population. Si des personnes essayent de contourner les mesures du confinement, on pourrait avoir un échec comme on a connu avec le couvre-feu.
Bruno Mégarban de l'hôpital Lariboisière avec Victor Dolande. La Belgique a décidé de renforcer les mesures de confinement. Les commerces non essentiels vont fermer, le télétravail devient obligatoire. Et puis sachez que les États-Unis ont battu un nouveau record hier, 94 000 nouveaux cas en 24 heures.
8h06, vous restez avec nous dans un instant. Nice se recueille 4 ans après l'attentat sur la promenade des Anglais. La ville est à nouveau frappée par le terrorisme.
Europe 1. Votre matinale info, Pierre de Villeneuve.
Et la suite du journal de Marguerite Lefebvre à Nice. Marguerite, le parvis de la basilique Notre-Dame est désormais recouvert de fleurs. Depuis jeudi, par dizaines, les habitants viennent se recueillir.
C'est toute une ville aujourd'hui qui a besoin de panser ses plaies. Nice, déjà touchée il y a 4 ans par le terrorisme, ce camion bélier lancé sur la promenade des Anglais. Jeudi, c'est la communauté catholique qui a été visée. 3 personnes assassinées dans la basilique. Reportage de notre correspondant Frédéric Michel.
Encore combien de minutes de silence, combien de fleurs, de bougies, combien encore de vies brisées et quel avenir ? 2 jours après une nouvelle attaque dans leur ville, les Niçois ont bien du mal à retrouver leur vie d'avant.
Franchement, il y en a marre.
C'est de la tristesse, on a peur.
On va finir par regarder derrière soi.
Si on monte des communautés contre les autres, ça ne s'arrangera pas non plus.
Bien sûr, c'est pas la solution.
La crainte, c'est la division, l'escalade. Martine Waknin est en charge de la maison d'accueil des victimes à Nice.
Nous voulons vivre avec le sentiment que nous sommes en sécurité. Alors peut-être qu'il faudra que les accès dans les lieux de culte soient plus sécurisés. Je sais que dans les synagogues à Nice, s'il y a des accès avec des caméras. Peut-être que malheureusement, nous serons contraints d'y parvenir.
S'adapter à la menace, mais aussi la dénoncer, la combattre, Boubacar Bekri est le recteur d'une mosquée à l'Ariane, un quartier populaire de Nice.
Il faut absolument que les musulmans prennent la parole. Il ne peut pas y avoir cette séparation qui est prônée, cette guerre des religions qui est dite. Nous, en tant que Français, en tant que musulmans vivant dans ce pays, nous disons non.
Et sur les marches de la basilique, côte à côte, les représentants de tous les cultes ont affiché leur union.
Frédéric Michel à Nice pour Europe 1. La basilique Notre-Dame devrait rouvrir demain pour une messe de la Toussaint qui ne sera pas ouverte au public.
Et concernant l'enquête, 2 personnes sont en garde à vue ce matin.
Soupçonnées d'avoir été en contact avec le terroriste qui lui est toujours à l'hôpital, son état n'a pas encore permis aux enquêteurs de l'auditionner. Face à la menace terroriste, l'exécutif a décidé de renforcer la sécurité dans le pays. L'opération Sentinelle va passer dans les jours qui viennent de 3000 à 7000 hommes.
8h10 en Turquie, le bilan provisoire fait état de 26 morts. Un séisme hier a ravagé la région d'Izmir, dans l'ouest du pays.
Tremblement de terre en pleine mer Égée qui a touché également l'île grecque de Samos. La secousse a fait trembler toute la zone. Hélène Terzian.
De gigantesques nuages de poussière qui s'élèvent vers le ciel. Ils s'échappent d'immeubles effondrés comme des châteaux de cartes. À Izmir, 3e ville turque et sa province, 17 immeubles se sont écroulés. Ce jeune homme était en train de jouer en ligne sur son ordinateur lorsque la terre a tremblé. La vidéo enregistrée par sa webcam et partagée sur les réseaux sociaux témoigne de la violence de la secousse. Depuis, c'est une course contre la montre qui est engagée. Des grues soulèvent parfois des pans de murs pour tenter de sortir les survivants des décombres. À une vingtaine de kilomètres au sud d'Izmir, Hamza était chez lui au moment du séisme.
Tout bascule, la vitrine qui est tombée, les murs, les portes, tout est basculé. C'est affreux.
Le séisme a frappé si fort qu'il a provoqué un mini tsunami sur la côte turque à 50 km d'Izmir et à Samos, en Grèce. Sur l'île, l'écroulement d'un mur a tué deux adolescents. Des secousses ont été ressenties jusqu'à Istanbul et Athènes, la Turquie et la Grèce qui ont mis de côté leurs vives tensions diplomatiques. Les deux pays se sont engagés à s'entraider en cas de besoin.
Hélène Terzian, et puis toujours à l'étranger, le Premier ministre arménien demande ce matin de l'aide à Vladimir Poutine. Une aide pour assurer la sécurité de son pays qui est toujours en conflit avec l'Azerbaïdjan dans la région du Haut-Karabakh. On suivra ce soir la fin des Six Nations. En rugby, les Bleus ont encore une petite chance de s'imposer. Ils affrontent l'Irlande à 21h05 au Stade de France. Et il faudra suivre attentivement dans le même temps le match qui oppose l'Angleterre à l'Italie.
Très attentivement. Et on le disait en début de journal, malgré le confinement, les retours de vacances vont pouvoir s'échelonner jusqu'à demain soir. Vous avez donc le droit de rouler aujourd'hui et on fait un point sur vos conditions de circulation.
Le radioguidage sur Europe 1 avec les opticiens Atoll pour être sûr de bien voir aussi la nuit au volant.
Et il y a toujours ce ralentissement sur l'A36 en direction de Mulhouse. Il y a deux bouchons, un au niveau de Montbéliard et puis un autre à l'approche de Mulhouse. Plus au sud, ce sont des accidents auxquels il faut faire attention. Un accident sur l'A7 au niveau d'Avignon lorsque vous roulez vers le sud. Sur l'A8 également vers l'Italie au niveau de la Trinité. Et puis sur l'A40 en direction de Mâcon. Une voie est neutralisée au niveau de Saint-Julien en Genevois. À part ça, aucun problème à vous signaler. Pas même en Île-de-France où l'on ne compte que 2 km de bouchons. Pour l'instant, ça roule très bien.
Merci, confinement oblige. Merci Marguerite Lefebvre qui revient tout à l'heure pour le journal de 9h.